Tout d'abord, ben, merci pour l'invitation. Jawida Saïli, effectivement, n'a pas pu être là. Elle s'en excuse sincèrement. Et du coup, voilà, donc c'est moi qui vais vous présenter cette recherche que nous avons menée à trois sociologues depuis 2016. Une recherche sur l'essor multisitué du travail chez soi. Et du coup, c'est une recherche qui a pour partenaire principal et financeur Leroy Merlin Source, qui est un réseau de chercheurs qui travaillent les questions de l'habitat et qui a décidé justement de s'intéresser à la question de l'habitat par un prisme particulier, qui était celui du travail. Parce que Jawida Saïli et moi-même sommes sociologues du travail. Du coup, effectivement, je vous le disais, cette recherche a commencé en 2016. Elle continue sur un deuxième volet depuis 2018. Et donc, on a mis à jour un certain nombre de choses. Je reviendrai sur des éléments qui ont été dits par rapport au travail chez soi et au télétravail. Donc, il faudra effectivement, et ça, on y reviendra, distinguer le télétravail du travail chez soi. Le travail chez soi est une catégorie plus large qui nous permet justement de déconstruire ce qu'est le télétravail. Donc la présentation aujourd'hui, on le précise quand même, va s'attacher à mettre en avant des résultats avant le confinement. On commence à avoir des résultats, ce qu'on a fait passer un questionnaire aussi pendant le confinement. Donc, on commence à avoir des résultats, donc on pourra en donner quelques-uns. La proportion du travail chez soi qui était mesurée en 2016-2018 reste en réalité équivalente, c'est-à-dire qu'on était autour de 26%. On reste aujourd'hui sur le travail chez soi autour de 26%, même avec le confinement. Donc déjà, on était au-dessus des chiffres donnés par l'INSEE, ce qui n'avait rien d'étonnant, étant donné que le cadre du télétravail est un cadre légal et beaucoup de personnes travaillent chez elles sans être pour autant télétravailleurs ou télétravailleuses. Donc ça explique pourquoi on avait aussi ces écarts et pourquoi le vocable et les concepts utilisés vont influencer les réponses, mais on va y revenir par la suite. Donc, on va effectivement, cette présentation était en deux temps. La première partie était plutôt portée par Jawida Saïli sur la question de l'externalisation et de l'intrusion du travail chez soi et qu'est-ce que ça modifie dans certains rapports sociaux, en particulier le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à soi et à la représentation de soi. Et donc, on reviendra là-dessus. Et dans un second temps, je vous présenterai, donc c'était moi qui devais le faire et je le ferai avec plaisir, je vous présenterai comment ce travail chez soi va s'externaliser et comment les entreprises commencent à s'organiser, même dans leur design, dans leur habillage, pour préparer, former au travail chez soi. Voilà, donc là, oui, dire aussi que sur ce deuxième volet qui a débuté en 2018, nous travaillons avec une dessinatrice, Sandra Villiers, qui du coup nous permet d'approcher encore plus finement que nous le faisions ces mutations du travail. Parce que quand on parle de travail chez soi, il s'agit en effet de parler de mutations du travail, des mutations de nature diverse. Qui s'inscrivent dans le temps long, qui sont structurés par des processus et des tendances lourdes qui lui donnent sa forme. En particulier, on le disait, l'essor du numérique a modifié des modalités de travail. Ce qu'on observe avec le travail chez soi est en réalité quelque chose de très commun, de très. On va, c'est pas une catégorie sociologique, mais on va dire traditionnelle, Étant donné que sur Lyon, on avait les canuts qui travaillaient déjà à domicile. Évidemment, les assistantes maternelles travaillent à domicile. Donc, il y a tout un tas de catégories de population qui travaillaient déjà chez elles, pour qui, donc, du coup, le travail chez soi n'a pas changé. En revanche, ces mutations du travail vont induire. Les enseignants aussi travaillaient déjà chez eux pour corriger des copies, un certain nombre, préparer leurs cours, etc., un certain nombre de choses. Et ces mutations du travail vont induire que d'autres catégories socio-professionnelles sont aujourd'hui impactées par l'intrusion du travail chez soi, alors qu'elles étaient auparavant plutôt protégées du travail à domicile. Donc le travail chez soi va être au cœur d'une série de problématiques qui mobilise une pluralité de figures et qui va réinterroger les enjeux de coopération, de reconnaissance, d'isolement et ou de mise en concurrence. Et donc les injonctions à la productivité et à la performance ne sont pas sans conséquence ne sont pas, pardon, sans conséquence sur les éléments constitutifs de l'habité, à savoir l'imaginaire, le sensible, l'affectif, et ils viennent donc à investir progressivement le domicile dans une dimension travail plus ou moins importante, et ça va se faire non pas sans conflit et sans négociation. Et donc, ces configurations où s'articule la vie familiale et professionnelle réinterrogent les processus de socialisation et de création des identités professionnelles et personnelles. Et donc, les conditions spatiales et les enjeux de sociabilité et d'affectivité qui en résultent sont loin d'être connus encore aujourd'hui dans leurs conséquences et encore moins maîtrisés. Donc, nous avons établi, construit un cadre méthodologique pour essayer d'approcher le travail chez soi. À l'écran s'affiche une définition que nous avons produite à partir de cette recherche du travail chez soi, qui est une forme spécifique de travail multisitué. Si vous voulez, il y a effectivement, le télétravail qui est une forme très particulière, le travail chez soi qui est une forme un peu plus englobante et le travail multisitué qui est une autre forme de travail, elle aussi plus englobante, qui prend un certain nombre d'autres éléments. Donc, on a construit un cadre méthodologique pour mesurer l'ampleur du phénomène et essayer d'approcher finement l'activité du travail chez soi en observant l'ensemble des dimensions et matérielles, professionnelles et affectives qui concernent ce travail, d'analyser aussi donc les représentations des individus et les mises en pratique spatio-temporelles, les tensions et la résolution des conflits dans la dimension matérielle, professionnelle et affective. Qu'est-ce qui est mis en jeu en réalité hein, dans la vie intime, amicale, familiale, avec les enfants, etc. Et donc, on a dû créer les conditions méthodologiques d'observation et d'investigation empirique très spécifiques, puisque sur 4 ans, nous avons donc réalisé des entretiens auprès d'une trentaine de configurations. Une configuration, pour le préciser et être très clair, ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut être 2 personnes comme 4, 3, etc. Donc, on a réalisé une trentaine d'entretiens auprès enfin, une trentaine, pardon, enfin, on a réalisé des entretiens auprès d'une trentaine de configurations sur 4 ans. Sur ces 4 ans, c'est également ajouté 2 questionnaires statistiques, dont un qui n'était pas prévu, qui était celui du confinement. Il a fallu innover à ce moment-là. Du coup, nous avons. Les questionnaires qui ont été diffusés en 2 vagues à chaque fois auprès de 30 000 personnes et qui nous a permis donc d'avoir un certain nombre de résultats. Je le reprécise encore cette fois, dans la deuxième partie de la présentation, Sur un autre cadre méthodologique que je présenterai un peu après, nous avons bénéficié de la coopération dans le cadre d'un autre projet de recherche porté par le Centre Max Weber et l'équipe TIPO en particulier. On a bénéficié de la coopération d'un photographe, David de Saleu, qui travaille assez régulièrement avec des sociologues du travail et qui photographie régulièrement le travail. Vous verrez ses productions. Donc, du coup, quelques données statistiques pour rentrer dans le vif du sujet. 20%, pardon, des personnes qui répondent au questionnaire nous disent que le travail chez soi est une notion ambiguë et mal appréhendée, ce qui veut dire en réalité que pour 80%, pardon, des répondants et des répondantes, c'est une notion qui parle. Donc, le télétravail, enfin, pas le télétravail, mais le travail chez soi est une notion qui parle. En termes de statut, la plupart des répondants sont salariés. On a peu d'indépendants. 11% sont fonctionnaires. Voilà, 12%, pardon, décidément, 12% des personnes qui disent ne pas travailler chez elle rapporte en réalité, même ponctuellement, du travail chez elle. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer dans le déroulé du questionnaire. On les a rattrapés par d'autres questions un peu de biais. Et donc, du coup, à ces 80%, donc c'est des personnes qui nous disaient, par exemple, on ne travaille pas chez nous. Pas du tout. Et en réalité, quand on poursuit le questionnaire, se pose la question de ben, est-ce que vous répondez à des mails quand vous êtes chez vous? Est-ce que à des mails professionnels quand vous êtes chez vous? Est-ce que vous répondez au téléphone pour l'organisation de réunions, etc., quand vous êtes chez vous ou d'autres formes? Et donc 12 personnes nous disaient, 12% des répondants nous disaient que oui, en réalité. Donc on a là aussi, on a une part plus importante de personnes qui travaillent chez soi. Et donc là, c'est un élément sur lequel j'insiste un peu, parce que c'est important de l'avoir en tête, effectivement, puisque ça signifie que ces personnes ne conscientisent pas le fait de travailler chez elles. Il a fallu passer par d'autres biais beaucoup plus explicites pour en arriver à cette conclusion. Donc effectivement, sur du simple déclaratif, on peut avoir des proportions beaucoup plus inférieures à la réalité du travail chez soi. Voilà, sur les proportions, la plupart donc des personnes travaillent effectivement entre 2 et 3 heures par jour chez elles, donc c'est pas seulement des journées de télétravail, hein. C'est des journées en plus du travail qui vient s'ajouter au travail en entreprise. Voilà. Donc, sur le nombre de jours par semaine, 17% nous disent une à deux fois par semaine, 11% tous les jours. Et quand on dit tous les jours, c'est week-end compris. Ce n'est pas seulement 5 jours par semaine, c'est les week-ends compris. Donc, 11% tous les jours. Ce qui est une proportion assez importante. Et on voit là déjà des effets sur le rapport au temps, aux temporalités sociales et sur en particulier les week-ends. Donc 7% travaillent après 22 heures et 4% entre 5 heures et 8 heures. Voilà, ce qui est aussi des chiffres assez intéressants. Sur les autres, on voit que ça s'organise aussi en fonction de la journée d'école. Donc, il y a aussi d'autres rythmes sociaux qui viennent structurer ces temps de travail. Et donc, c'est toute la question de la réarticulation dans une catégorie qu'on déconstruit dans notre recherche, mais d'une articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Je le dis comme ça pour le dire simplement, mais en réalité, il s'agit plus d'un continuum que d'une articulation. Voilà. Et donc, comment on s'adapte et on organise les choses. Et 14% des personnes qui nous disent travailler chez elles investissent aussi des espaces de coworking. Et on y reviendra dans une autre partie sur la question du rapport aux espaces extérieurs. Donc, trois questions, comment dire, directrices pour mener les entretiens. Qu'est-ce que le travail chez soi pour vous? Où travaillez-vous chez vous? Et quand travaillez-vous chez vous? Donc, ça a été les trois questions directrices qu'ont été posées, bien sûr, avec des relances, des demandes de précision, etc. Et les réponses qui ont été apportées nous permettent d'évaluer donc et d'analyser le rapport à l'espace du chez soi, le rapport au temps, le rapport à l'extérieur du logement qui du coup est totalement modifié et le rapport à la représentation de soi. D'ailleurs, sur ces dessins qui sont des dessins de personnes auprès de qui nous avons enquêté, vous remarquerez qu'elles ont toutes au pied soit des pantoufles, soit des sandales. Et c'est l'une des spécificités du travail chez soi. Donc sur le rapport à l'espace, pour commencer, pour ce qui est du rapport donc à l'espace, on observe effectivement un rétrécissement du chez soi sur l'espace de travail. C'est-à-dire que même un salon qui peut être relativement grand, si le bureau est dans le salon, eh ben, on observe en réalité que la personne est toujours attirée par ce bureau, n'arrive plus à construire son espace en le cloisonnant du travail. Le travail est toujours présent et même le travail va s'éparpiller dans différents espaces du domicile, même la chambre. Et donc là, c'est quelque chose qui est relativement important parce que en réalité, avec les smartphones, le premier geste que les personnes font chez elles en se réveillant, c'est de regarder leur mail et c'est aussi le dernier geste qu'elles font. Et on pensait, c'était une hypothèse, que l'espace de la chambre était un espace au départ plutôt préservé du travail chez soi. Voilà, donc on voit que même la chambre ne résiste pas, et plus que la chambre, les toilettes non plus ne résistent pas. Des enquêtés nous disaient très concrètement, parfois quand elles sont en conférence, mettre leur micro sur mute, aller aux toilettes, continuer à suivre une conférence ou une réunion, revenir ensuite, répondre à des mails, voilà, en étant aux toilettes. Non. Il n'y a plus d'espace, vous voulez, clos ou hermétique au travail. Tous les espaces du domicile, même ceux qu'on pourrait dire les plus intimes, sont, selon les représentations de chacun, sont effectivement investis par le travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relativement nouveau. Qui modifie profondément la relation à l'espace du domicile. Donc là, on a effectivement un enquêté qui travaille chez lui. Donc, il a installé un coin bureau, trois écrans, hein, rien que ça. Donc, ça lui permet de checker ses mails, de gérer son activité professionnelle. Et ce qui est relativement intéressant quand on l'interrogeait, c'est qu'il nous disait, parce qu'on a eu aussi des entretiens vidéo, et donc la vidéo est disponible sur le site de Leroy Merlin Source, vous pourrez aller la voir, c'est qu'il nous disait très concrètement qu'il était à trois pas de son lit et qu'il avait compté. Donc typiquement, il était à trois pas de son lit. Il travaille en pyjama de temps en temps, il se lève, il se fait un café, il se pose directement devant ses écrans. Et autre biais de ce travail chez lui, c'est qu'il travaillait jusqu'à 23h minuit, jusqu'à se faire taper sur les doigts par son client. Donc c'est aussi un rapport un peu paradoxal parce qu'il est indépendant par son client, lui disant bah, tu peux pas répondre à des mails à minuit, c'est pas possible par rapport à nos clients, aux clients donc de l'entreprise. Voilà. Donc là, effectivement, ça modifie la question du rapport au temps, puisque ça va avoir un impact sur les temps de la famille, ça va avoir un impact sur les rythmes qu'on s'impose à soi-même. Et ça, c'est la grande difficulté du travail chez soi, c'est son autonomie, sa responsabilité, parce que bien sûr, c'est les mouvements de précarisation du travail où là, ce n'est plus l'entreprise finalement qui se dit qu'elle doit gérer, organiser ses temps de travail à domicile, mais c'est les individus qui vont recevoir cette responsabilité. Donc ça pose un certain nombre de questions en termes de droit, en termes de protection de la vie personnelle, etc. Donc, compartimenter ces temps, une enquête nous dira, et je cite ce verbatim, ce qui n'est pas évident, j'ai vu différents journalistes indépendants à Paris qui ne font pas trop la part des choses et pour qui justement la vie professionnelle, c'est la vie tout court. Ce n'est pas la vie privée qui a pris le pas sur la vie professionnelle, mais après il y a l'image du métier passion, tout ça. Puis après, ce sont des personnes qui sont ambitieuses, qui ont réussi. C'est vraiment des personnes pour qui, des collègues, la vie pro, c'est la vie tout court. Et puis les gens que tu fréquentes, ce n'est pas des amis, c'est des sources potentielles. Enfin, ils ne le diront pas comme ça, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans ce biais-là non plus. C'est le risque avec un métier où tu peux tout professionnaliser. Et donc là, c'est le cas d'une profession spécifique qui est celle des journalistes, et on observe en réalité que ça va se traduire dans tout un tas d'autres professions. Les personnes travaillant chez elles, et particulièrement en télétravail, le vivent presque comme un privilège, puisqu'il y a toute l'idéologie du bien-être au travail qui vient soutenir cette mise en place la mise en place de cette nouvelle forme d'exploitation, parce que c'est une forme d'exploitation des ressources productives que le travail chez soi, soyons clairs. Et donc, ces personnes, comme elles le vivent comme une chance, vont en faire plus pour légitimer le fait que eh ben, l'employeur a bien eu raison de les faire travailler chez elles. Voilà, donc effectivement, c'est des temps qui s'imposent au sein du domicile, qui font exploser la journée de travail, et un continuum, comme je le disais au début, entre la vie privée, ou plutôt les tâches domestiques, et donc la vie de la maisonnée, puisque la lessive, le rangement, va se faire sur les temps de pause normalement que vous pouvez avoir dans une entreprise ou au sein d'un établissement quand vous avez la récréation, bah vous allez boire un café. Bah là, au lieu de vous faire un café, vous lancez une machine, vous surveillez la machine, vous faites la vaisselle ou vous lancez un lave-vaisselle, etc., etc. Donc, ces temps, effectivement, s'imbriquent les uns aux autres et tout cela participe en réalité à un temps productif. Et là aussi, on abandonne dans notre recherche cette appellation du travail reproductif ou des temps reproductifs qui n'ont pas de sens, puisqu'en réalité, ces temps-là, ce travail-là est un travail tout aussi productif, puisqu'il est la structure même qui permet au travail productif, au dit productif, de se faire. Donc, il est totalement imbriqué dans ce travail productif. Donc le travail chez soi, vous voyez, nous permet quand même de déconstruire un certain nombre de catégories, même assez classiques en sociologie du travail et par rapport aux temps sociaux. Et ce qui va du coup permettre d'organiser ces temps, ça va être aussi la présence de personnes au sein du domicile avec qui on va co-travailler, mais du coup dans une attitude studieuse. C'est-à-dire que si la personne en face de vous travaille pas, bah, vous aurez tendance à pas travailler, etc. Donc il y a tout un tas de trucs et astuces qui vont se mettre en place pour organiser le travail chez soi, et ça demande justement un temps d'adaptation. Et il faut trouver ses marques et il faut apprendre à travailler chez soi, parce que travailler chez soi ne va pas de soi. Donc trouver ses marques, cette enquête nous dira. Oui, je crois, ou peut-être Mars, ça faisait à peine un mois que je bossais là-dedans et j'avais vraiment du mal à prendre mes marques. Quand on n'a jamais fait ça, je pense que la première fois, on se dit, OK, je bosse, je suis en pyjama, très bien, je pourrais bosser toute la journée en pyjama, ça pourrait le faire, c'est vraiment bizarre. Quand on a l'habitude du métro boulot dodo, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment un nouveau rapport au temps du travail et du domicile qui va se mettre en place. Et quand le domicile, et particulièrement dans le cas du confinement, quand l'ensemble de la vie sociale s'est rabattu sur le domicile, c'est-à-dire qu'au sein d'un tout petit de logement, tout petit logement quoi qu'il en soit, c'est l'ensemble de la vie sociale qui venait se rabattre sur les espaces du chez-soi, eh bien nécessairement, le rapport à l'espace intérieur va modifier le rapport à l'espace extérieur. Et donc les cloisonnements. Donc le rapport à l'espace extérieur, c'est effectivement, on va aller chercher à l'extérieur des espaces de réassurance, des espaces de décompression, et voire même on va s'appuyer sur des espaces extérieurs pour essayer d'organiser son travail à domicile. Et c'est toute, si vous voulez, le paradoxe de ces choses-là, parce que le travail chez soi peut aussi isoler. Et donc, on peut se sentir fortement isolé avec un impact sur la santé mentale. Et des personnes nous disaient effectivement souffrir de cet isolement. Ou parfois, c'est aussi l'envahissement de la vie familiale. D'un coup, la famille devient de trop. Trop d'enfants, trop de bruit, trop de conjoints, de conjointes, et du coup, trop de sollicitations, d'interruptions, etc. Et donc, l'espace de l'habitat du chez-soi est devenu un espace productif, et on va donc réinvestir des espaces extérieurs, comme les espaces de coworking. 7%, alors je vous disais, les chiffres varient un peu d'une enquête à l'autre, mais c'est entre 7 j'ai perdu le chiffre, mais c'est pas grave. 7%, en tout cas, autour de 7%, 10% des personnes nous disent aller dans des espaces de coworking. Donc, on a visité des espaces de coworking pour essayer de se rendre compte de ce qui, comment on y travaillait, etc. Et donc là, l'objectif de ces espaces qui connaissent aussi un certain essor, et je pense que l'essor des espaces de coworking et leur multiplication n'est pas sans lien avec l'essor du travail chez soi, puisque ces espaces de coworking vont avoir pour objectif de fédérer des communautés potentielles de travailleurs et de travailleurs aussi souvent précaires. Et les espaces donc de coworking vont jouer un rôle central dans la structuration des réseaux pour faciliter les échanges, les coopérations et la créativité. Donc, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'avec le travail chez soi, les collectifs qui étaient généralement liés à une entreprise sont en train d'exploser, sont en train de s'atomiser pour la création, vers la création d'autres collectifs temporaires. Et spécifiques au sein d'espaces, de tiers espaces comme les espaces de coworking. Donc, on a aussi une remise en cause des collectifs, ce qui n'est pas sans lien non plus avec la question des mobilisations pour les droits, etc. Et donc, cette transformation, donc ces espaces de coworking vont avoir un rôle à jouer. On a visité donc des espaces de coworking qui vont réinvestir aussi l'imagerie, paradoxalement l'imagerie du chez-soi. Et donc on a visité un de ces espaces, le Slow Café Cowork Art Love, qui se présente de la manière suivante, ça s'affiche à l'écran. Bonjour, SOFET, une maison hybride au cœur de Lyon, slow café, coworking, galerie d'art, lieu d'événementiel et d'expression. Les êtres s'y retrouvent, les compétences s'y croisent. Trois petits points, bisous. Et le bisou est quand même très signifiant, parce que le bisou, c'est une marque d'affection, c'est une marque d'intimité, et d'autant plus rare en temps de confinement. Et donc, on va réinvestir ces espaces-là sur le mode de l'intime du particulier. Donc, c'est des lieux de travail censés créer une sorte de collectif qui vont revendiquer d'une certaine manière d'être à la maison. Et sur sa page intitulée Collectif, par exemple, on peut lire dans cet espace uniquement des bureaux nominatifs, plus qu'un lieu de coworking partagé, une famille. Voilà, donc on est vraiment à fond dans le registre de l'intimité et le registre finalement des registres qu'on retrouvait dans le chez-soi. Mais bien sûr, et c'est là tout le paradoxe, ces espaces de coworking sont des espaces payants. Donc, vous travaillez chez vous pour un salaire et vous allez travailler dans des espaces extérieurs à votre entreprise. Mais pour travailler dans des espaces extérieurs à votre entreprise, vous payez. Voilà, donc c'est une innovation capitalistique parmi d'autres, mais qui permet comme ça des circulations assez étonnantes. Et donc on le disait, des modifications sur la représentation de soi, en particulier sur le fait, sur la manière de se vêtir, de s'habiller. Certaines études ont d'ailleurs montré que lors du confinement, ce qui a explosé, c'est l'achat de haut. De vêtements hauts, pas les bas. Voilà, parce qu'effectivement, il fallait pouvoir se montrer à la caméra, bien habillé, etc. Et donc, souvent, les interviewés vont exprimer tous un bien-être, mais quand ils réfléchissent, eh bien, ils se rendent compte qu'effectivement, ce bien-être, il est quand même relativement précaire. Ils perçoivent que le temps de l'urgence professionnelle va organiser leur posture sociale et c'est le travail qui finalement devient premier sur la hiérarchie. Je passe donc à cette deuxième partie sur très rapidement. Ça va, je crois que je suis encore dans les temps, donc très rapidement. Je passe à cette deuxième partie sur effectivement une entreprise. Donc là, on a travaillé avec un photographe, David de Saleu, je vous le disais. On a eu plusieurs réunions et on est allé dans les locaux de Bouygues Immobilier à Lyon vers Pardieu. Donc on s'est intéressé à cet espace-là. Ils nous ont accueillis avec plaisir et donc. L'idée, c'était d'effectivement voir comment s'organiser le travail dans le cadre d'un projet qui s'intéresse aux vêtements de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le travail chez soi interroge de manière aussi particulière le vêtement de travail qui avait certaines spécificités en termes de protection, de sécurité dans certaines tâches. Du coup, on a travaillé avec ce photographe, on a réalisé 181 photos, on a déroché ces photos. Donc, heureusement, je crois qu'il n'y a pas trop de sociologues de l'image, mais je vais peut-être heurter Pierre qui intervient après sur la statistique, étant donné que on a déroché ces photos presque de manière statistique, c'est-à-dire qu'on a établi des tableaux, on a décrit ce qu'il y avait dans les photos et puis on a essayé de voir ce qui ressortait. Du coup, la question, ça a été quels sont les critères pertinents des photos? Est-ce que ce sont les vêtements? Est-ce que c'est les signes du chez soi? Est-ce que c'est l'activité de travail? Est-ce que c'est tout en même temps? Etc. À partir de là, du coup, nous avons. Parfait, ça ne te choque pas, Pierre? Tant mieux. Du coup, à partir de là, nous avons pu effectivement établir quatre axes et affiner quelques définitions. Donc, on a établi ces quatre axes avec un jeu de définition sur le vêtement de travail, sur l'habillement, qui en réalité a la même étymologie que le terme habitat. Et donc, ces quatre axes, c'est l'image vectrice de normes, c'est le fait d'habiller l'espace et le travail, c'est les éléments perturbateurs dans ces espaces de travail, on va y revenir, et c'est enfin, en conclusion, le fait que ce sont des configurations mêlées. Donc, sur l'image vectrice de normes, donc là, vous allez voir la différence aussi entre des photos de sociologues et des photos de photographes professionnels. Je reviens juste sur un élément. Je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran, mais ici, vous avez par exemple donc une vitre avec une phrase collée dessus. Cette phrase dit: il vaut mieux penser le changement que changer les pansements. Et c'est intéressant de voir que cette phrase peut avoir aussi une valeur de mise en garde, d'une certaine manière, par rapport aux salariés. Et donc, s'affichent dans ces espaces de travail des photos, de grandes photos, qui représentent l'organisation du lieu, comment la fonction du lieu et ce qui est attendu comme travail dans ce lieu. Donc là, on a effectivement des personnes qui sont en train de travailler, mais ce n'est pas les seules normes hein, que transmettent ces images. Il faut savoir que les personnes que vous voyez sur ces photos sont des salariés de Bouygues Immobilier, salariés actuels ou passés, parce qu'ils ont peut-être changé d'entreprise entre-temps. Donc, vous avez une espèce de mise en abîme où des salariés se photographient en train de simuler une situation de travail dans laquelle ils vont se retrouver réellement ensuite. Là, un autre, vous êtes dans l'espace détente. Donc, bien sûr, les postures sont beaucoup plus détendues, les visages beaucoup plus souriants, etc. Voilà, donc vous avez tout un tas de normes qui vont être édictées. Les images dictent effectivement les usages des lieux et des pratiques. Vous avez un cadre normatif qui est également souligné par des citations. Là, on n'arrive pas à la lire, mais vous en avez une autre ici. Donc, des usages qui sont soulignés par des citations qui, comme je le disais, peuvent avoir une valeur de mise en garde. Vous avez aussi des espaces vitrés. Tous les espaces sont vitrés, donc ça signifie quoi? Ça veut dire que la vue est décloisonnée et que tout le monde est sous la surveillance de tout le monde et tout le temps. Donc on contrôle et on s'auto-contrôle puisque ces salariés sont invités d'une certaine manière à se mettre en scène dans leur travail et à montrer quel travail. Donc on est vraiment dans des formes de performance et performation, le travailleur-acteur, la travailleuse-actrice. Et justement, on observe d'étranges symétries entre la photo qui va s'afficher et l'espace de travail. C'est le cas en particulier à droite. Et ça fait penser un peu aussi aux apprentissages, comme dans les écoles du premier degré, ou enfin, comme pour les niveaux de premier degré, où les règles vont s'afficher. Peut-être que c'est aussi le cas au collège, je ne crois pas, mais ou en tout cas les règles vont s'afficher de manière plus ou moins ludique pour que les enfants comprennent que là c'est le coin jeu, que là c'est le coin de lecture, que là c'est le. Etc. etc. Voilà, et là on retrouve aussi ces formes qui peuvent être finalement aussi comprises comme des formes d'infantilisation des travailleurs. Donc, habiller l'espace, c'est-à-dire que l'espace, effectivement, on va le designer, l'habiller de certaines manières pour invisibiliser le travail. Et donc, on va avoir une organisation sur cet immense plateau du travail nomade en fonction de l'activité et de l'intensité du travail, avec des salles plus ou moins silencieuses. Et donc, les salariés, selon la tâche de travail, vont être invités à se déplacer tout au long de la journée. Sur ce plateau. Petite précision, c'est quand même important, et là il faut comprendre les enjeux aussi économiques du travail chez soi, du télétravail. Sur ce plateau, ils peuvent accueillir 80 salariés. Ils sont actuellement 110 salariés. Et ils sont arrivés à garder ce plateau sans acheter de nouveaux locaux et de nouveaux bureaux en mettant en place le télétravail. Voilà, donc c'est des économies d'échelle aussi qui se jouent. Donc là, vous avez un espace effectivement qui est habillé de sofa. Vous avez l'impression d'être soit dans une salle de cinéma, soit dans un grand salon. Ces canapés vont bouger au fur et à mesure dans la journée aussi, puisque ça va se transformer en espace de yoga et d'activités sportives sur les temps de pause. Quand je vous disais que les photos transmettaient d'autres normes que les normes du travail et les fonctions des lieux, c'est aussi les normes corporelles et physiques, puisque, comme vous avez pu le voir sur les photos, vous avez essentiellement des personnes plutôt en bonne forme physique et en tout cas qui n'ont pas de problème de surpoids. Et du coup, ces espaces itinérants vont aussi poser des problèmes d'appropriation. Et c'est seulement les espaces privés, donc des casiers. Quand les salariés arrivent, ils mettent leurs affaires dans les casiers, ils les déposent dans leurs casiers, qui sont des espaces privatifs. Et ce sont ces espaces-là, pardon, qui vont du coup être décoré des dessins des enfants, d'un album qu'ils aiment bien ou de leur équipe de rugby préférée, etc. Voilà, donc, et tous les espaces de travail, eux, sont totalement dépersonnalisés. Là, vous avez, ça c'est mon image préférée, elle est excellente, vous avez deux personnes qui font de la résistance par rapport à la mise en place de ce travail nomade et ces espaces décloisonnés. Ces deux personnes sont les secrétaires qui, en raison de leur tâche de travail, ne peuvent pas s'amuser à se déplacer tout le temps. Et du coup, vous avez des piles de dossiers comme ça qui s'amoncellent, qui se construisent et qui forment finalement des murs par rapport à leur activité. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais cette secrétaire a aussi son manteau qui est directement posé sur leur chaise. Ils n'ont même pas, puisque c'est des espaces nomades, ils n'ont pas de porte-manteau pour poser leurs affaires. Voilà. Donc ça, c'était pour effectivement la question des espaces. Je regarde si j'ai rien oublié. Et vous avez ensuite au sein de ces espaces qui reprennent certains codes du chez-soi et de l'habitat, des éléments perturbateurs qui sont assez marrants à voir. Donc là aussi, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que le photographe qui a l'habitude de photographier le travail s'est amusé à rester 30 minutes dans une pièce. Donc là, vous avez la photo idéal type du bien-être et du bonheur au travail. Et puis, 30 minutes après, vous avez, quand ils se sont lassés de sa présence et qu'ils en avaient marre de se mettre en scène, vous avez le travail réel tel qu'il s'effectue, pas avec de grands sourires dents blanches, etc. Et donc des éléments perturbateurs, c'est par exemple ce caddie dont on ne sait pas trop s'il est là pour transporter des dossiers dans le cadre du travail nomade ou s'il est là au contraire pour le marché, pour aller faire le marché qui est juste au pied de l'immeuble certains jours de la semaine. Là, un autre élément perturbateur, c'est cette valise. Donc vraiment, vous êtes dans la construction de représentation du nomadisme et du travail nomade total. Une valise qui, là aussi, est soit pour porter des éléments, des dossiers, etc., soit pour au contraire, parce que la personne se déplace beaucoup. Voilà, j'accélère un peu de façon à être dans les temps. Des configurations mêlées, donc c'est là véritablement où on va voir que les normes du chez-soi et les normes du travail se croisent. Vous avez un salarié en train d'éplucher des pommes, alors comme ça, c'est bon, ok. C'est dans l'espace cuisine détente. Et donc, il faut savoir que les salariés reçoivent en début de semaine d'immenses paniers de corbeilles de fruits, etc. Donc, en plus de faire du sport sur la pause entre midi et deux, vous devez aussi manger sainement. Vous voyez, donc, c'est toutes les normes hein, qui sont véhiculées par les photos qu'on montrait au départ et qui finalement imprègnent totalement les rythmes, les styles de vie, les modes de vie, etc. Et bien au-delà du travail. Et là aussi, un autre élément perturbateur, le surnom Zizi, qui apparaît pour s'inscrire à l'activité yoga. Voilà, donc vous avez l'impression en réalité d'être dans une grande colocation avec des espaces transitionnels, donc c'est dans des couloirs. Vous avez à la fois des informations quant à l'activité de l'entreprise et des annonces de naissance, des dessins d'enfants, etc. Et donc, vous avez l'intimité qui va se mêler au professionnel pour finalement distinguer les deux. Là, vous avez, donc on est encore dans cet espace de détente. Vous avez donc deux salariés, la photo a été un peu montée de façon à mieux voir, qui sont en train de discuter, certainement elles travaillent, certainement elles en profitent aussi pour prendre leur pause, dans des tenues qui sont des tenues finalement qui peuvent très bien aller et aux situations de travail et aussi aux situations professionnelles. Et dans cet espace de détente où les personnes peuvent préparer leur repas, faire réchauffer leur repas, vous avez aussi ici le planning événementiel, qui sont les événements de l'entreprise. Donc c'est les événements hors temps de travail, mais auxquels il est de bon ton de se montrer. Voilà. Et une autre photo, alors cette photo, c'est d'ailleurs, juste, pardon, excusez-moi, juste une précision sur ces vêtements-là. On a justement sur la question du vêtement, on a développé un concept qui est celui de vêtements multisituables et on est de plus en plus dans ce type d'habillement. Donc cette photo, c'est aussi une photo que j'aime beaucoup parce que c'est une photo volée. Volée pourquoi? Parce qu'on allait partir. Il avait rangé. Le photographe a rangé son appareil photo et le salarié nous surveillait du coin de l'œil depuis le début. Et il s'est dit, c'est bon, je suis tranquille, ils vont partir. Et là, sa posture, totalement en détente, affaissée sur ce canapé, en train de regarder soit des messages perso, soit pro. En tout cas, voilà, il était dans une attitude de détente. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a pris la photo. Dès qu'il a vu qu'on avait pris la photo, il s'est tout de suite remis droit. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des postures aussi du chez soi et du travail qui se mêlent dans ce type d'espace. Et bien sûr, puisque vous faites du sport entre midi et deux, que vous venez au travail en vélo, bien entendu, eh bien, vous avez des douches et des salles, enfin, des espaces douches pour vous laver. Voilà, donc pour conclure rapidement sur ma présentation, on parle généralement de bonheur au travail. En réalité, on pourrait plutôt parler de nouvelles formes d'aliénation heureuse. On est heureux d'être aliéné parce qu'on dit que c'est le bien-être, etc. Ça vient troubler les représentations de soi avec des liens paradoxaux entre liberté, bien-être et asservissement. Ça re-questionne les légitimités professionnelles et sociales qui sont questionnées, puisque bien sûr, j'en ai pas parlé, parce que je ne peux pas tout dire, mais au sein des couples, quand il y en a un qui travaille à l'extérieur, l'autre qui travaille à domicile, ce qui va rentrer en jeu, c'est par exemple, bah, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas préparé le repas, mais pourquoi? Tu es resté à la maison toute la journée. Bah, à la maison, mais en train de travailler. Donc, il y a l'enjeu de la pièce dédiée qui remonte de plus en plus et qui devient de plus en plus importante. Et on pense que progressivement, et on en discutait avec des bailleurs sociaux qui nous ont permis aussi de diffuser les questionnaires et dont je vous ai présenté les résultats. Et on pense que l'une des nouvelles formes d'habitat, ça va être le trabitat. C'est-à-dire soit des espèces d'immenses colocations où vous aurez des petits logements privatifs qui seront directement connectés à un espace collectif de travail, de coworking, soit, et ça les bailleurs sociaux commencent à y réfléchir, soit au pied d'immeuble de construire des espaces de coworking, des espaces partagés pour les habitants des logements. Et donc on arrive à une nouvelle forme du travail qui serait et qui prend en compte toutes ces mutations qui seraient donc le trabita. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir été assez clair. Ce qui est véritablement nouveau dans cette forme de travail, dans cette mutation du travail, c'est le fait que, je le disais au départ, hein, que ce sont de nouvelles catégories socioprofessionnelles qui vont être touchées. Pour ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, effectivement, je pense qu'il est important de garder en tête que le travail chez soi, le télétravail, ne sont pas. Sont des innovations, ce que j'appelle plus dans ma thèse, mais ce que j'appelle des innovations capitalistiques, sont effectivement des formes d'innovation, mais qui ne viennent pas de nulle part. Les structures existent, les organisations sociales qui permettent au télétravail de mettre tous les salariés au télétravail pendant un confinement ont existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est apparu comme ça. Les structures ont préexisté aux solutions qui ont émergé pendant le confinement pour maintenir une activité de travail. Voilà, donc on est vraiment sur plutôt un essor du travail chez soi, du télétravail par rapport à des formes qui étaient existantes. Voilà. Et l'objectif, c'est de plus en plus de toucher le plus large public, puisque quand vous travaillez chez vous, il y a tout un tas de compétences que vous allez mettre en œuvre, tout un tas de formations, une qualification finalement au travail chez soi qui se construit, qui est totalement invalorisée dans le salaire, dans la reconnaissance lors des entretiens individuels, etc. Donc voilà, c'est ça aussi qui est en jeu. On est de plus en plus vers une ubérisation, pour reprendre ce terme, ou de précarisation du travail et des travailleurs. On parle, nous, d'invalorisation du travail. Pas tant que ça, parce que du coup, effectivement, la question de la formation, à la fois pour les élèves comme pour les étudiants, c'est des questions de socialisation. Et on va socialiser les individus de plus en plus au travail chez soi. Là, pour le coup, en tant qu'enseignant, on a la tête dedans, hein, c'est-à-dire que on utilise les plateformes, on enchaîne les conférences, les cours, etc. Et effectivement, on prépare et on organise ces habitudes de travail à domicile, de travail chez soi, de travail à distance. Donc il y a une forme de socialisation en réalité qui se fait par différents biais, à la fois par le biais familial, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des parents qui télétravaillent chez eux, qui vont donc du coup transmettre des codes à leurs enfants, mais aussi du coup ça va se faire au niveau éducatif et scolaire. D'ailleurs, il est important de noter que dès la maternelle, les enfants sont évalués sur des compétences. Aujourd'hui, les enfants ne disent plus je vais à l'école, ils disent presque par mimétisme je vais au travail. Donc, il y a quand même une évolution de vocable qui est remarquable et intéressante à étudier, qui en dit beaucoup sur la manière dont la société conçoit son rapport à la formation et aux différents publics. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a donc une pluralité de configurations, hein, une trentaine de configurations, dont des configurations avec des personnes qui sont designers, designeuses, etc., et qui vont être dans des métiers un peu créatifs. En réalité, comme pour le mail qui, à la base, est un média qui organise des échanges asynchrones et de plus en plus dans une logique de l'immédiat. C'est-à-dire, on vous envoie un mail, il faut que vous répondiez quasiment dans l'instant ou dans l'heure, quoi. Et ben pour ces designers et ces designeuses, ils se rendent compte qu'en travaillant chez elles et en organisant le travail chez elles, elles se retrouvent aussi embarquées dans ces modalités-là. Donc effectivement, l'INSEE peut-être observe ça. Moi, je crois que le véritable prisme d'analyse, et ça, on pourra le dire effectivement quand on aura travaillé, quand on aura sorti l'ensemble des résultats du questionnaire sur le confinement, il me semble que ce qui va jouer sur la productivité véritablement, c'est le capital logement, ce qu'on appelle le capital logement, c'est-à-dire un agglomérat de différents critères. Ça va être le nombre de mètres carrés par personne, la situation familiale, le lieu d'habitation, la qualité de connexion, etc. Et tout ça va jouer en réalité sur la productivité. Un autre enquêté nous disait, par exemple, qu'il se sentait plus productif. Et quand on interroge pourquoi, la définition qu'il donne de la productivité n'est plus dans un rapport au temps. C'est-à-dire, il dit plus je produis tant de pièces en tant de temps, c'est sur une journée j'ai produit tant de pièces. Mais quand on regarde, en réalité, par heure, il produit le même nombre de pièces, sauf que son temps de travail a explosé puisqu'il travaille chez lui. Donc, effectivement, il se sent plus productif en travaillant chez lui, mais il fait que ça. Donc, il y a toute cette question de perception aussi de la productivité. Et puis, je pense que c'est aussi lié au un capital qui est, et à un apprentissage qui est celui de se mettre en valeur, d'être capable de donner à voir le travail qu'on fait. Et ça, les gens doivent l'apprendre parce que le principal effet du télétravail, c'est effectivement d'invisibiliser le travail. Donc j'en profite pour répondre à Equay sur le chat, qui demande si on ne s'oriente pas vers du travail payé à la tâche pour l'ensemble des salariés. Je ne sais pas si c'est le cas, peut-être, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est plutôt une invalorisation du travail, c'est-à-dire une invisibilisation aussi du travail. Tout ce qui fait travail va être invisibilisé et donc ne sera plus rémunéré. Et au-delà de ça, pour les entreprises, c'est des économies immenses, c'est-à-dire que c'est des locaux en moins à payer. Les locaux coûtent quand même relativement très cher. C'est de l'électricité en moins. L'électricité est du coup déléguée aux salariés hein, qui payent leur électricité, qui payent leur forfait Internet, qui payent un certain nombre de choses sans que ça soit pris sans que ça soit répercuté sur les salaires ou que ça soit pris en charge par l'entreprise. Donc déjà, rien que là, il y a une plus-value immense qui est directement captée par les entreprises. Alors là, pour le coup, je n'ai pas de réponse. Ça dépendra, je suppose, des bailleurs sociaux, mais il est fort à parier, en tous les cas, que ce qui va être usage de l'imprimante, de la photocopieuse ou même des connexions et plus largement de l'électricité, ça va être directement impacté sur les charges de cohabitation. Voilà, donc on peut le supposer, en tout cas. Qu'on participe ou non à ces espaces de coworking au pied d'immeuble. Ce qui pose aussi un problème, c'est-à-dire que ces espaces, on sera en train de travailler à la vue de ses voisins. Je ne suis pas sûr que ça soit très sollicité ou très agréable. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'enjeux en réalité qui mettent un peu à épreuve ces fausses bonnes idées.